If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid. Good trips only.
Get the Kärcher clean feeling this spring. With Kärcher steam cleaners, there's nothing more satisfying than a deep clean. Whether it's surfaces, hard floors, taps, tiles, ovens, and more. Just add tap water with no need for harsh chemicals to keep your family safe and healthy. Bring back the wow to your home with the Kärcher steam cleaning range today. Available at selected retailers or online at kärcher.co.uk.
I used to wonder if I could turn my passion for broadcasting into a career. Then I went to a Birmingham City University open day. Now I study media production at BCU. Imagine honing your skills in cutting-edge facilities from TV studios to radio suites and even having the opportunity to gain industry experience. Well, that's my reality at BCU. Join us at our next open day on Saturday the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now. I am Lauren. I am BCU.
L'entraide, parfois, elle peut être meilleure qu'un acte d'adoration pur.
La majorité des femmes, en fait, ont la conscience et ont même cette envie de prioriser l'éducation de leur enfant. Mais elles savent aussi que pour être en paix dans leur foyer, ça doit également passer par leur épanouissement.
Ça nous rappelle que dans un couple, la première personne à qui on doit se confier et vers qui on doit revenir pour chercher de l'aide, c'est notre conjoint ou notre conjointe, et non pas les autres membres de la famille.
Toutes les femmes que j'ai accompagnées, leur moteur principal, justement, c'est la foi. C'est la foi. En fait, elles veulent pouvoir laisser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en quelque sorte, un héritage, en fait. Elles veulent, en fait, pouvoir être actives dans la Ouma.
S'entraider, que ce soit professionnellement, socialement ou spirituellement, c'est l'un des moyens, l'un des facteurs les plus efficaces pour faire progresser, pour faire évoluer l'affection qu'on a entre nous au sein du foyer.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cache derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère.
Je vais vous faire une confidence. S'il y a bien un sujet que je n'avais pas vraiment anticipé avant de me marier, c'est bien l'entraide au sein du foyer. Pour moi, s'entraider, c'était un simple bonus, mais sans plus. Vous vous en doutez, j'ai vu aussi juste qu'une taupe en plein blizzard, et Dieu merci, j'ai décidé de transformer mes erreurs d'appréciation d'hier en un épisode du jour. Au travers de l'entraide au sein des ambitions professionnelles, l'entraide sociale et l'entraide dans le cheminement religieux, nos deux invités vont nous aider à comprendre comment faire rimer au sein de nos foyers amour et secours. Bella Diallo, accompagnatrice des femmes au changement grâce à sa structure Le Courage d'être soi, nous éclaire sur tout ce que nous avons à gagner à laisser notre conjoint exprimer le plein potentiel qu'Allah lui a accordé. Et Farid Jebira, fondateur de l'Institut musulman de Moselle, partage avec nous des exemples prophétiques dans lesquels l'homme et la femme s'entraident avec sincérité et succès. L'entraide, c'est bien plus qu'une faveur. C'est une douceur qui apaise les cœurs et peut balayer des contrariétés parfois très ancrées. S'entraider, c'est s'aimer. J'espère que l'épisode du jour saura vous en convaincre à votre tour. Sans plus tarder, je vous laisse profiter des enseignements de mes deux invités et vous souhaite, inch'Allah, une excellente écoute.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, vraiment, dans le cadre d'un sujet qui moi me serait pas venu spontanément à l'esprit, mais que notre cher frère Farid ici présent m'a suggéré, et il m'a également suggéré une nouvelle invitée, parce que Farid, ce n'est pas la première fois que tu interviens sur le podcast. Ben là, toi, c'est une grande première pour toi, donc on te souhaite la bienvenue. Et je vais vous laisser vous présenter avant de commencer à parler de ce fameux sujet du jour. Ben là, je t'en prie si tu veux commencer.
Ah, donc, en premier temps, alhamdoulilah, vraiment, pour cette opportunité, ça me fait vraiment plaisir d'être là parmi vous. Alhamdoulilah, donc, moi, c'est Bella. Je me définis comme une accompagnatrice au changement. Donc, du coup, ce que je fais, c'est globalement, j'accompagne principalement les femmes musulmanes à travailler leur projet professionnel. Donc, ça peut être sur plusieurs axes, comme la reconversion professionnelle, le bilan de compétences, l'association ou encore la création d'entreprise dans l'entrepreneuriat. Et la spécificité, en fait, de l'accompagnement, c'est qu'il est global. Ça veut dire que c'est pas d'entrée de jeu, on commence à travailler le projet professionnel, on va avant tout lever les freins, les différents blocages. Donc, ça peut être lié à la parentalité, lié à la communication dans le couple, lié à la confiance en soi, l'estime de soi. Et il y a toujours une belle dose de spiritualité. Ça veut dire que, pour moi, le projet professionnel, il est toujours lié, en fait, à notre foi, à nos valeurs islamiques.
Bah, c'est une très bonne chose que tu dis ça, parce que dans une des dimensions qu'on va aborder, la dimension du travail, et je pense que ce qui est important, et ce qui est dit tous les trois quand on a préparé cette conversation, c'est de relier l'enjeu professionnel pour l'homme comme pour la femme à notre statut de serviteur d'Allah. Donc, je suis ravie de te l'entendre dire en préambule. Harit, je te laisse te présenter, même si on ne te présente plus dorénavant à notre podcast. On t'écoute.
Alors, je suis Farid Jebia, je suis votre frère, directeur pédagogique et fondateur de l'Institut musulman de Moselle, fondateur des éditions El Wasila. Je suis enseignant en langue arabe et en sciences religieuses musulmanes. Je suis conférencier et auteur. Et très heureux de te retrouver, Madina, ainsi que les auditeurs et les auditrices.
Mashallah, je suis persuadée que la joie de te retrouver sera réciproque pour les auditeurs également, alhamdoulilah. Si on se voit aujourd'hui tous les trois, si on enregistre, c'est pour parler d'un sujet qui l'entraîne au sein du couple musulman. Et c'est un sujet qui paraît anodin, mais en réalité, il est fondamental. Et je pense qu'on peut en convenir, l'entraide au sein du couple, c'est un enjeu de bien-être finalement de ce couple, s'entraider. Et on se rend pas compte, mais l'entraide, c'est un... Ça peut être un atout, comme ça peut être dévastateur quand il n'y en a pas au sein du couple. On va aborder ce sujet, mais sous trois prises précises, pour pouvoir aider un maximum de nos frères et nos sœurs filles là, et puis nous, en premier, à cheminer dans ce couple avec entraide et avec joie. Le premier thème, ce sera la première dimension, ce sera plutôt la dimension professionnelle. La deuxième, ce sera plutôt la dimension sociale, sociétale. Et puis la troisième, qui n'est définitivement pas des moindres, pardon, ce sera l'entraide dans la foi, dans la spiritualité. J'ai une question pour toi, Moralité Faris. Ma première question, c'est en quoi l'entraide, c'est un acte d'amour en islam?
D'accord. Alors, ta question, elle est comme à chaque fois, Madina. Tu es sûrement inspirée quand tu prépares tes questions. Comment tu as choisi cette notion d'amour? Pourquoi tu as choisi cette notion d'amour?
Parce que pour moi, vraiment, je parle avec le cœur. Quand mon mari m'aide, c'est une preuve d'amour pour moi. C'est-à-dire que l'entraide fait naître qu'on renforce ce sentiment amoureux. Et alors, le pauvre, à chaque fois, je le cite beaucoup trop ces derniers temps, je vais arrêter de le citer. Mais d'une manière générale, l'entraide est un acte d'amour, en fait. Je le vois vraiment comme ça, et j'irai même plus loin. Quand il n'y a pas d'entraide dans le couple, on ne se sent pas aimé, nous, les femmes. Hein, les tâches ménagères, tout ça. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir ça en warning derrière moi. C'est pour ça que je l'ai relié directement à l'amour, Farid.
D'accord. Ben, sache que c'est très pertinent, puisque le prophète s'enseigne dans un hadith considéré comme l'un des plus importants concernant l'aide et l'entraide. Il utilise le verbe aimer pour parler de l'entraide. Il dit, donc, dans un hadith authentique, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمِينَ. Donc le prophète, il dit dans un hadith, les plus aimés Et là, il y a le verbe aimer. Les plus aimés des gens auprès d'Allah, ce sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Et il dit ensuite, l'action la plus aimée, ahabbul a'mal, l'action la plus aimée auprès d'Allah, c'est le fait de rendre un musulman, de faire rentrer la joie dans le cœur d'un musulman en l'aidant, soit en le soulageant d'une peine, d'une dette ou de la faim. Donc, tu vois, le terme aimer, il est utilisé par le prophète s.a.w. dans ce hadith et nous indique que aider, ça fait partie des actes qu'Allah, il aime. Il y a une notion d'amour. Et à la fin du hadith, le prophète s.a.w., il va dire que lui-même, il aime cela. Puisqu'il va dire, وَلِأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ أَنْ يَعْتِكِفَ مِنْ يَعْتِكَفِ عَنْ مِنْ هَذَا الْمَسْجِدِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. Qui va dire le prophète s.a.w. dans le sens, marcher avec mon frère pour résoudre une affaire qu'il a, ahabbu ilay, c'est plus aimé pour moi que de faire l'i'tikaf dans cette mosquée, la retraite spirituelle dans cette mosquée, c'est-à-dire sa mosquée à lui à Médine. Donc à retenir ici, c'est le verbe aimer qui est utilisé pour parler de l'entraide. Le mot nes, qui veut dire que l'entraide elle est universelle, nes c'est des hommes. Sans prendre en considération leurs convictions, leurs origines ethniques, etc. C'est vraiment l'entraide, c'est une valeur universelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise lui-même le verbe aimer pour l'entraide, et il nous indique même, et ça c'est fort, c'est que l'entraide, parfois, elle peut être meilleure qu'un acte d'adoration pure. L'i'tikaf, faire la retraite spirituelle, c'est un grand acte d'adoration. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle que aider quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien, c'est meilleur que cet acte d'adoration. Et enfin, pour terminer, effectivement, je le rappelle, Madina, tu as déjà donné une orientation. En fait, il y a des degrés de priorité dans l'entraide. Dans l'entraide, d'un point de vue islamique, les priorités sont basées sur deux choses. Premièrement, la notion d'autorité. C'est-à-dire quand on a l'autorité sur des gens, ils sont prioritaires concernant l'aide qu'on va apporter, ou la responsabilité qu'on a sur des gens fait qu'ils sont prioritaires dans l'aide qu'on va leur apporter. Et l'autre, c'est les liens du sang. Toute personne qui a un lien de sang avec nous est prioritaire vis-à-vis de l'aide qu'on va apporter. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question, en quoi l'entraide, effectivement, est un acte d'amour en islam.
On va s'arrêter là, on aurait fini finalement là. si on médite là-dessus, on aurait déjà de quoi avoir envie, en tout cas, de se s'entraider tous ensemble, et mashallah, je veux pas retenir, je veux pas m'arrêter sur tout ce que tu as dit, mais si on peut s'arrêter deux secondes sur le fait que tu disais l'entraide est universelle, c'est beau, parce que c'est vraiment un message de l'islam, ça a été envoyé à tous les hommes, de toute façon. Et puis, le fait de se dire aussi que, il y a des priorités à l'entraide, et il faut, c'est Allah qui a donné ces priorités-là, en fait. Et ça, c'est important, parce que, comme le disait une amie à moi, parfois, on a tendance à prendre nos proches pour acquis. C'est pas avec eux qu'on va faire prendre du plus d'entraide, justement. Et ça, je trouve que c'est un beau rappel. Je te remercie vraiment, Farid, pour ces précisions. Si on rentre dans le vif du sujet, si on commence par l'entraide dans la dimension professionnelle, moi, j'ai voulu qu'on commence par cette dimension-là parce que c'est une dimension qui, d'un point de vue moderne, contemporain, cristallise beaucoup de temps sur d'apophrase sur de déception, dans le sens où on a l'impression que le seul modèle qui islamiquement est efficace pour certains d'entre nous, en tout cas je vais pas faire généralité, c'est le modèle de l'homme va chercher le risque de la famille et la femme elle est à la maison pour justement gérer l'intendance du foyer, mais surtout pour amener la paix dans ce foyer. Ma question, c'est quelles sont qu'est-ce que Allah nous dit, en fait, sur le travail en islam, Farid? Est-ce qu'il y a un cadre précis? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul modèle qui fonctionne? Parce que, force est de constater que nous sommes plusieurs, hein, 1 million de musulmans, on ne répond pas tous à ce modèle de l'homme acheter ses risques et la femme ne travaille pas. Est-ce que tout le monde a faux? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Farid?
D'accord. Donc, effectivement, c'est important qu'on place le cadre dès le début de l'intervention et par la suite, ça va nous permettre de rester dans le cadre voulu par la législation islamique. Alors, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la révélation, donc la révélation, elle est de deux sortes. soit c'est à travers la parole d'Allah, le Coran, soit à travers l'inspiration qu'il accorde au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers la sunnah, les hadiths notamment. Quand on revient justement dans les hadiths, les savants, ils se basent sur certains textes considérés comme fondamentaux dans la répartition des tâches dans le foyer. L'un des textes phares, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Chacun d'entre vous est un berger ». Il donne une image. Et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. Et ensuite, il va dire « L'imam est responsable de son troupeau, des gens qui sont à sa charge ». Ar-rajoul, l'homme masculin, il est le berger dans sa famille. C'est lui qui est responsable de son troupeau, c'est-à-dire responsable de sa femme, de ses enfants. Et ensuite, il me dit « Wal-mara'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'oulatun an ra'iyatiha ». Et la femme, elle est également responsable de la maison de son mari, c'est-à-dire quand il n'est pas là, et elle est responsable du troupeau, c'est l'image pour dire elle est responsable des enfants et de tout ce qui va autour, les finances, la logistique, etc. Donc ici, à travers ce hadith-là, il y a une répartition des tâches. Je pense c'est le terme qu'il faut utiliser. C'est une répartition des tâches. L'homme, à travers ce hadith, il y déduit qu'il a l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille. La femme, elle n'a pas cette obligation. Elle a une autre obligation, c'est de préserver le foyer en l'absence de son mari. Ça, c'est le cadre qui est planté dès le début, et c'est un cadre qui va permettre de répartir des tâches initialement. Ça veut dire quoi, répartir des tâches initialement? C'est comme, par exemple, vous savez, quand on a un contrat, chaque partie a des droits et des devoirs. Si jamais il y a un manquement, on revient au contrat, on dit « tu as vu ce qui était stipulé à la base ?» Ça, c'est dans le cas où on s'entend pas, on revient à la base. Ben, c'est exactement pareil ici. Si jamais dans le foyer, il y a un souci, il faut revenir à la base. C'est-à-dire, quelle est la répartition des tâches indiquée par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète. Et ça, c'est vraiment en cas de souci. Après, si le couple arrive à s'entendre et à s'épanouir, à se mettre d'accord, ça c'est autre chose. Et c'est pourquoi maintenant je vais me permettre, Medina et Bella, juste de rappeler les différentes cas de figure concernant le travail de la femme. Parce que c'est ce sujet-là qui est délicat, on est bien d'accord. C'est le travail de la femme. Alors, il n'y a pas d'interdiction concernant la femme à aller travailler. Et les savants, pour arriver à cette déduction, ils sont partis de très loin. Notamment le cheikh Al-Qardawi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit que quand on revient au texte islamique, il n'y a aucun texte qui interdit à la femme de quitter son foyer. Il n'y a rien qui interdit à la femme de quitter son foyer. À partir de ce postulat, il dit si la femme a le droit de quitter son foyer, c'est forcément qu'elle a le droit d'être investie dans la société, notamment concernant le travail. La preuve de cela, entre autres, il nous dit que le prophète, il a dit aux hommes qu'ils devaient maîtriser leur regard lorsqu'ils se trouvent dans la voie publique. C'est un hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari. Le grand savant Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, qui est le plus grand commentateur du Sahih al-Bukhari, quand il commente ce hadith, il a rappelé que le prophète avait dit ces propos parce qu'il n'est pas interdit aux musulmanes de sortir de chez elles. Autre texte, le prophète, il a dit, texte très célèbre, n'empêchez pas les femmes de se rendre dans les mosquées. Leur domicile est cependant meilleur pour elles. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Donc là encore une fois, on revient à cette liberté à la femme de pouvoir sortir du foyer. On ne peut pas l'interdire de sortir du foyer. À partir de là, on peut en déduire qu'elle peut être active dans la société, notamment pour le travail. Alors concernant le travail, maintenant il y a plusieurs cas de figure. Alors, il faut être concentré, attention. Pour les auditeurs et les auditrices, sortez votre crayon et là, on va prendre des notes. Donc, premier cas de figure, c'est lorsque au sein de la communauté, au sein d'une société, peut-être plus particulièrement au sein de la communauté musulmane, il y a un besoin qui se fait ressentir. Il y a un besoin qui se fait ressentir, il y a un manquement. Et il y a une nécessité qui doit être comblée. C'est ce qu'on appelle dans le droit musulman des choses qui proviennent de « min furud al-kifaya ». ce sont les choses qui sont obligatoires collectivement. Quand une chose est obligatoire d'un point de vue collectif, ça veut dire que si un groupe de musulmans, ne serait-ce que 2-3 personnes, ne s'occupe pas de ce problème, et que le problème reste en suspens, toute la communauté musulmane va porter le péché devant Allah. Mais il suffit que 2-3 personnes s'occupent de ce problème, et la communauté musulmane entière est exempte de ce péché. Eh bien, parmi les exemples que donnent les savants des obligations, je dis bien obligations, hein, collectives pour la femme, c'est par exemple le métier de gynécologue. Ils disent que si dans certains endroits on ne trouve pas de femmes gynécologues, eh ben ça oblige les femmes à sortir du cadre islamique de la pudeur et de se diriger vers des hommes. Certes, il y aura un besoin ici, mais dans ce cas-là, il aurait été préférable d'envoyer des femmes, d'accompagner des femmes dans la formation, dans l'étude, pour qu'elles deviennent gynécologues et qu'elles viennent combler ce besoin de société, notamment concernant ici le cas précis de la gynécologie. Et ça, donc, comme je le rappelle, c'est un cas de nécessité pour la communauté musulmane, et dans ce cas-là, c'est obligatoire pour la femme d'aller travailler. Donc là, on est dans une obligation. Ça, c'est le premier cas de figure. Et cette obligation, elle était collective. Deuxième cas de figure, c'est une obligation individuelle. C'est au cas par cas. Pareil, on va revenir à la notion de nécessité. Par exemple, si une femme, elle est veuve, et qu'elle n'a pas les moyens, par rapport aux revenus qu'elle reçoit, des aides, elle n'a pas les moyens de vivre, de faire vivre dignement sa famille. Dans ce cas-là, il est nécessaire, et les savants disent, wajib, obligatoire pour elle, d'aller travailler. Dans ce cas-là, il est obligatoire pour la femme d'aller travailler. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, les savants, ils disent, c'est lorsque la femme, par exemple, elle va travailler pour aider son mari, parce que lorsque son mari travaille, les revenus qu'il perçoit ne sont pas assez conséquents pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille de la meilleure des façons. Ils sont toujours dans le rouge à la fin du mois, il y a certaines choses, il y a des difficultés à payer, peut-être même il y a des dettes, etc. Dans ce cas-là, la femme, elle peut aller travailler, ce sera une bonne action qu'elle va accomplir pour aider son mari. Cependant, ils mettent la condition que ça doit se faire par la concertation du mari et de la femme. Autre cas de figure, oui.
Pardon, je me permets de noter que, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que là, tu parlais plus forcément d'obligation, mais tu disais que c'est mieux que l'entraide se passe là.
C'est mieux.
Mais est-ce que là, voilà. On est sorti du cadre de l'obligation, alors que précédemment, dans les deux cas précédents, tu parlais d'obligation. On est bien d'accord, c'est juste pour être précis.
Oui, c'est ça. Oui.
Très bien.
C'est ça. Là, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire, le mari ne peut pas obliger sa femme à aller travailler parce qu'il a des soucis à subvenir aux besoins du foyer. Il peut pas la forcer. C'est ça le sens, hein, qui est voulu, Bella. Et Madina, c'est ça le sens qui est voulu. Mais en tout cas, bien sûr, ça peut devenir pour la femme un acte recommandé, parce qu'elle va accomplir une bonne action en soutenant son mari. Preuve d'amour, comme tu l'as indiqué au début du podcast. Autre cas de figure, c'est lorsque la femme, elle va aller travailler sans aucune nécessité, et que lorsqu'elle va effectuer son travail, elle va délaisser la priorité dans la répartition des tâches, c'est-à-dire le foyer. Je donne un exemple, un couple qui a des enfants, ils vont travailler tous les deux, et les enfants sont quelque peu laissés pour compte à la maison. Et ensuite, il y a des problèmes peut-être à l'école, etc. Eh bien là, les savants disent « la yajouz ». Il n'est pas permis à la femme, dans ce cas-là, d'aller travailler, si surtout il n'y a aucune nécessité. Il aurait été préférable qu'elle reste à la maison et qu'elle s'occupe de l'éducation des enfants et de faire en sorte que ça se passe au mieux. D'accord? Donc, je donne vraiment un cas extrême, c'est au cas où ça se passe pas bien. Si ça se passe bien, alhamdoulilah, il n'y a aucun souci. Par contre, ils disent, si effectivement il y a des répercussions, si le travail de la femme a des répercussions sur la vie au foyer, dans ce cas-là, ils disent « la yajouz ». Ils n'utilisent pas le terme « haram », mais ils disent « la yajouz », c'est-à-dire « c'est pas permis ». Dernier cas de figure, c'est lorsque le travail n'est pas nécessaire, mais que la pratique du travail ne trahit ni la priorité des répartitions des tâches, notamment concernant la femme, ni les principes liés à l'islam. La femme peut garder son voile, etc. Dans ce cas-là, les savants, ils disent, Jaïz, c'est-à-dire c'est permis, la femme peut aller travailler tant que ça n'a pas de répercussions sur son foyer, tant qu'elle, il n'y a pas des actes qui sont contraires aux valeurs de l'islam, alhamdoulilah, elle peut aller travailler. Voilà un petit peu pour résumer les différents cas de figure. Et je rappelle les deux choses les plus importantes, c'est la priorité, toujours revenir à la priorité. Pour la femme, la priorité, c'est le foyer. Donc en cas de difficulté, en cas de problème, en cas de mésentente, il faut revenir à cette priorité. Et la deuxième chose, c'est de prendre en considération, le cas échéant, la notion de nécessité. Voilà pour résumer. J'espère que j'ai été clair.
Ouais, t'as été très clair, Alhamdoulilah. Barakallahu fik, Farid, parce que je trouve que c'est des, il y a beaucoup de subtilités dans ce que t'as dit là. Et que ces subtilités-là, c'est important qu'on les rappelle, en fait. Et après, c'est ce que je t'ai dit, hein, quand on a peut-être un enregistrement, on parle d'une substance, on n'est pas là pour donner des aides, là, pour ça, qui indique, ou les premiers, en tout cas, voilà, après, je crois qu'on voit, moi, ça m'apporte beaucoup, et ça nourrit ma réflexion et mon statut de pause. Ben là, moi, j'ai une question pour toi dans le domaine de professionnel.
Oui.
Est-ce que, on a vu que ce qui est permis, dans certains cas, à autoriser, permis, à la femme, de travailler, moi je me délire. Ma question c'est, est-ce que toi dans les accompagnements que tu fais, tu vois une corrélation entre une religiosité un peu religifiée et un travail? Est-ce que tu vois une corrélation entre le fait que une femme s'épanouisse ou en tout cas puisse utiliser les talents que qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a donné à l'extérieur de son foyer? Est-ce que tu vois qu'il y a un véritable impact positif pour la femme, pour elle-même et dans son foyer?
Et oui, honnêtement, la majorité des femmes, même je pense je pourrais dire toutes les femmes que j'ai accompagnées, leur moteur principal justement c'est la foi. C'est la foi. En fait, elles veulent pouvoir laisser, je sais pas si c'est le bon mot, mais en quelque sorte un héritage en fait. Elles veulent en fait pouvoir être actives dans la Oumma. En fait, ce que j'ai remarqué avec les femmes de manière générale, elles ne veulent pas travailler pour s'enrichir. Elles veulent pas travailler pour être la numéro uno, des choses comme ça. En fait, c'est avant tout une dimension sociale, une dimension active, mais vraiment collective. Enfin, il y a vraiment cette notion d'entraide, de générosité. Je vais vous donner quelques exemples. La plupart des personnes qui sont attirées par mes accompagnements, ça va souvent être des infirmières, des professeurs, ou même si elles n'ont pas encore un pied dans ce domaine-là, elles souhaitent en tout cas pouvoir mettre à profit leurs compétences, leurs connaissances dans ces projets-là, parce qu'elles savent que tout ce qui est lié au domaine de l'éducation, de la santé, forcément, ce sont des piliers en fait de la société. Donc, bien sûr qu'il y a un lien avec la foi, et comme justement on accompagne beaucoup sur la spiritualité, bah leur foi est revivifiée. Tu vois,
je pense. Oui, je vois tout à fait, et je te remercie de nous avoir alimenté sur cette question-là, parce que je pense notamment à certaines personnes ou certains frères qui peuvent avoir peur quand la prétendante leur dit moi je veux travailler. Certains frères peuvent se dire mais non, c'est mieux que tu restes à la maison, etc. Et j'entends ça en fait. Moi je comprends ça, je suis pas là pour fustiger. Là où nous rencontrons, mais on est vraiment neutre aussi en escarlate, Inch'Allah Ta'ala, ça me permet de l'être et de le rester. Mais je trouve que c'est super important ce que tu dis là, parce que s'il y a des frères qui nous écoutent, qui puissent entendre à quel point ça a un impact véritablement et sur la religiosité de la femme, ou aussi sur son foyer en fait. J'en discutais avec une femme qui est mariée depuis 20 ans, et elle disait, mais en fait, moi, si je restais, parce qu'elle est beaucoup dans le social, elle disait, mais si je restais chez moi, à ne faire que ça, à faire que le ménage et m'occuper des enfants, ben, mon mari va me retrouver, je serai pas heureuse. Donc, c'est super, il va revenir du travail, il va trouver quelqu'un qui sera pas épouvant, comme une fleur un peu flétrie, en fait. Et c'est un peu ce que tu expliques là.
Tout à fait. Et, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a les femmes qui sont mariées et j'ai aussi quelques étudiantes. Mais la majorité, ce sont des femmes qui sont mariées. Et en fait, dès le départ, leur priorité, ce sont leurs enfants. Clairement. Donc, la majorité des femmes, en fait, ont la conscience et ont même cette envie de prioriser l'éducation de leur enfant. Mais elles savent aussi que pour être en paix dans leur foyer, ça doit également passer par leur épanouissement. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont attirées par leur projet, pour tout simplement pour créer un projet professionnel qui soit utile. En fait, je pense que les hommes qui ont cette peur-là, je pense que c'est plus lié à un souci de communication. Tu vois? Comme je te l'ai dit précédemment, j'accompagne beaucoup sur la thématique du couple et il y en a beaucoup, en fait, qui ne communiquent pas. Et ça a été montré que quand tu ne communiques pas avec l'autre, bah souvent, ce sont des interprétations, ce sont des choses que tu imagines.
Farid, est-ce que de ton côté, tu peux nous partager des exemples prophétiques de mariages qui ont survécu malgré que la femme soit partie travailler, machin.
Alors, oui, alors, concernant l'activité professionnelle, premièrement, j'ai choisi l'exemple de Moussa, al-Salam, Moïse, et la fille de celui qu'on considère comme étant Shuaïb. J'avais déjà raconté cette histoire, souvenez-vous, c'est quand Moussa, al-Salam, il arrive près du puits de Madian. Ah, il est totalement désemparé. Il trouve donc dans cette région-là un puits où les bergers de toute la région viennent abreuver leurs bêtes. Et puis il y a deux jeunes filles qui sont à l'écart. Moussa va aller les voir, il les questionne pourquoi elles sont là et elle lui explique. Et il y en a une qui dit wa abuna shaykhun kabir. Elle va dire notre père est quelqu'un de très âgé, donc il est très faible. Donc en gros, il peut plus s'occuper de l'entreprise familiale qui consiste à amener paître les bêtes, etc. Donc c'est elle qui s'en occupe. Et Moussa alayhi salam, ce qu'il va faire, il va tirer les seaux du puits pour elle, pour qu'elle ne soit pas lésée par rapport aux hommes qui étaient présents. Il va les aider et par la suite, eh bien, la jeune fille va l'appeler et le père de la jeune fille veut rencontrer Moussa. Ils vont discuter et à partir de là, la fille, elle va dire à son père. قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Elle va dire à son père, oh mon père, embauche-le, faut l'employer, parce que la meilleure personne à employer, c'est celui qui est fort et qui est digne de confiance. Alors, entre parenthèses, on est sur Helen Love, n'est-ce pas? Donc, il y a la notion d'amour, de mariage. Je le rappelle ici, je l'avais déjà dit, petite parenthèse, c'est qu'en fait, la fille, elle fait ici une demande indirecte en mariage. En fait, elle est en train de dire à son père, cet homme-là, il me plaît. Et elle donne même le pourquoi il lui plaît. Elle fait des compliments, des éloges, hein, elle dit al-qawiyul amin. Et d'ailleurs, le père a tout de suite compris la demande très subtile de sa fille, c'est pourquoi dans les versets qui suivent, il fait la demande en mariage à Moussa, c'est-à-dire il propose à Moïse d'épouser sa fille. Et moyennant, bien sûr, son emploi au sein de l'entreprise familiale. Moussa, alayhi salam, va accepter. Donc, il rejoint la famille, mais il rejoint aussi cette entreprise familiale. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette entreprise familiale, elle est au nom du père, mais celles qui tiennent la boutique, comme on dit, ce sont les deux filles qu'il a. Et quand Moussa, il vient et qu'il est embauché, bah déjà, faut savoir que qui l'a embauché en vérité? C'est la jeune fille. C'est elle ici qui est la RH. C'est elle qui est la chef des ressources humaines à ce moment-là. Et c'est elle qui connaît les compétences nécessaires pour le métier en question, puisqu'elle cite deux qualités principales, la force physique et la confiance, l'honnêteté qu'on peut avoir en un individu. Tout employeur rêverait d'avoir ce genre de salarié. Donc, on voit que c'est une femme qui est aguerrie, connaisseuse dans le monde du travail, parce qu'elle a l'expérience. Ben oui, c'est elle qui remplace son père qui ne peut plus travailler maintenant depuis plusieurs années. Et quelque chose de très subtil, parce que quand on lit les histoires, on se projette pas et c'est bien dommage. Et c'est ce que j'essaye de faire pour vous, mes frères et mes sœurs. Moi, je me projette et je vous ramène, je fais des parallèles avec le monde d'aujourd'hui. Ce qu'il faut déduire ici, c'est que comme le père est très âgé et qu'il peut plus travailler, quand Moussa y rejoint l'entreprise familiale, qui va commencer à apprendre le métier, parce que c'est tout nouveau pour lui. Qui va lui apprendre le métier? Qui va l'accompagner dans sa reconversion professionnelle? Eh ben, c'est cette fille qui est devenue sa femme. Ils sont mariés à ce moment-là. Et c'est sa femme qui va lui montrer comment on s'occupe des moutons, où est-ce qu'il faut les amener, la logistique concernant les bêtes. Tout ça, c'est elle qui va lui apprendre et qui va lui montrer. Et là, on a un couple, on a l'exemple d'un couple qui s'entraide dans une activité professionnelle, en étant même un binôme. C'est-à-dire, ils sont dans la même entreprise, ils travaillent ensemble et ils la développent. Et forcément, ça ne peut faire qu'augmenter les liens d'amour qu'ils ont entre eux et renforcer leur intimité. Donc ça, c'est le premier exemple. Moussa et la fille de Shuaïb. Le deuxième exemple concernant l'activité professionnelle, c'est l'épouse de Ayoub, le prophète Ayoub, alayhi salam. Alors, on sait tous que Ayoub, il a été atteint par la maladie. maladie très grave l'empêchant toute activité physique. Il était même alité. À l'article de la mort, il ne pouvait plus bouger. À ce moment-là, c'est son épouse qui va travailler pour subvenir aux besoins du foyer. Et certains ulamas, certains savants, ils ont dit que Ayoub était quelqu'un de très riche, avec sa femme à la base, et du jour au lendemain, ils sont devenus très pauvres. Et que sa femme, Ayoub, quand lui était malade, pour travailler, elle allait faire du ménage chez les gens riches. Et là, faut vraiment se mettre à sa place. Elle qui était d'un statut très noble, elle qui était riche, plus tard, elle se retrouve à faire le ménage peut-être chez des dames qu'elle connaît. C'est très humiliant. Ça peut être très dévalorisant. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est différent. Il y a la valeur de gagner son pain par la sueur de son front et d'une manière totalement licite. Et c'est là toute la valeur de cette femme exceptionnelle. Et là, dans cette nécessité extrême, c'est elle qui porte le foyer. C'est elle qui le porte, le foyer. Et d'ailleurs, elle va même arriver à un moment, nous disent les savants, jusqu'à ce qu'elle n'a plus les moyens de trouver du travail, etc. Elle va se raser les cheveux. Elle va les vendre à une dame riche. Pouvoir continuer à s'occuper de son mari, qui est très malade. Et vous savez, il y avait eu une dispute entre Ayoub et sa femme, qui est célèbre dans le Coran. C'est qu'elle a demandé à Ayoub d'invoquer Allah. Puisque vous savez, chaque prophète, il a une invocation exaucée. Mais il veut la garder pour le jour dernier. Et Ayoub, il s'est fâché avec sa femme. Il a dit, faut être patient, etc. Mais quand Ayoub, plus tard, il va retrouver sa femme qui rentre, elle va enlever son voile et il va voir qu'elle s'est rasée la tête. À ce moment-là, il va fondre en larmes et il va faire cette invocation qu'Allah a immortalisée dans le Coran. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Il va dire, Ayoub, oh mon Seigneur, le mal m'a touché et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah, il dit dans le verset après, fastajabna lahu. Ici, le fa, en arabe, ça veut dire tout de suite. Allah, il l'a exaucé. Donc, cette doa qu'il voulait garder pour le jour dernier, finalement, il l'a offerte pour sa femme, pour la sortir de cette condition difficile dès qu'il a vu tous les efforts et tous les sacrifices qu'elle a fait. Et ça, c'est important de le rappeler dans un couple, de reconnaître tous les efforts que fait l'un ou l'autre, pour faire en sorte que le foyer puisse vivre dignement, sereinement et de manière épanouie.
If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid, good trips only.
I used to wonder if I could turn my passion for broadcasting into a career. Then I went to a Birmingham City University open day. Now I study media production at BCU. Imagine honing your skills in cutting-edge facilities from TV studios to radio suites and even having the opportunity to gain industry experience. Well, that's my reality at BCU. Join us at our next open day on Saturday the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now. I am Lauren. I am BCU.
Et je trouve même oui. Que l'âne en train d'aller continue, en fait. Parce que, tu vois, il y a l'épouse de Ayoub alayhi salam qui l'a aidé. Lui est touché, il l'aide à nouveau. Vous voyez, c'est une dynamique, en fait. C'est que... Il est parti en se disant qu'on était là pour mettre en valeur le fait que là, justement, son épouse l'a aidé. Mais là, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu rappelles que l'entraide appelle l'entraide, en fait. Il lui l'aide, elle l'aide, etc. Et c'est ça qui est magnifique. Et on n'en pas douter si elle a choisi d'assumer sa responsabilité quand son époux, alayhi salam, est tombé malade. C'est probablement qu'avant, lui, il avait aidé, en fait. Et qu'en fait, l'entraide amène l'entraide et l'amour amène l'amour et tout est lié, en fait. C'est machin, pas.
Tout à fait.
Avant de passer à la dimension sociale, sociétale, j'ai une dernière question sur la question du travail, c'est la question de l'entrepreneuriat. Parce que on aime bien ici parler de contemporain, faire des flashbacks, revenir un peu. Et en fait, arrêtez-moi si je me trompe, hein, Bella et Farid, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même un vaste sujet au sein de la société et donc forcément au sein des couples. musulmans. Et donc, il y a de plus en plus de couples musulmans. Et ça, on en parlait avec Farid, que ce soit des frères qui sont entrepreneurs, donc des épouses entrepreneurs, ça chamboule forcément un peu l'équilibre familial. Parce que ils voient au travail à la maison, parce que on a cette vie qui est un peu entremêlée, le professionnel, le personnel, etc. Est-ce que vous-même, vous avez des exemples à nous communiquer, parce que vous baignez un peu dans cette réalité-là. Est-ce que vous avez des exemples à partager à nos frères et sœurs et à moi-même pour justement préserver l'entraide au sein du couple malgré cette réalité-là ou avec cette réalité-là?
Oui, tout à fait. Moi, je vais donner mon exemple personnel et quelques exemples que j'ai eu à accompagner, nous sommes là. Alors, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est j'ai vraiment communiqué sur ce projet, sur cette envie d'entreprendre. Et du coup, j'ai commencé les petites affaires, alhamdoulillah. Et en fait, ça marche vraiment au niveau de la communication. Et je pense, comme le disait très bien notre frère Farid, au niveau de la répartition. En fait, je pense que c'est aussi une vision commune à avoir, une vision à travailler. Je vais juste rebondir par rapport à ce que tu disais avec certains frères qui ont peur et même certaines sœurs qui jouent encore, qui n'osent pas se lancer. En fait, faut comprendre que la vision, c'est quelque chose qui évolue, qui se travaille. Donc, on peut très bien en discuter. On essaye. Ça veut dire, on peut partir sur un exemple d'organisation. Et si on voit que c'est un peu compliqué, si on voit que ça peut jouer sur les enfants, etc., ben, on réajuste. C'est OK. Et en fait, je pense que c'est pas si compliqué qu'on se l'imagine.
Farid, est-ce que toi, t'as quelque chose à rajouter sur le sujet?
Alors j'ai un exemple moi aussi. Donc un frère et une sœur que je connais. Le frère avait des grandes difficultés à s'insérer professionnellement. Il passait par Pôle Emploi, il passait par différentes structures, il n'arrivait pas à trouver un travail. Vraiment, il galérait. Et sa femme, elle a décidé d'entreprendre. Donc, elle a ouvert une boutique de parfums, de musc, etc., hein, qui sont confectionnés notamment dans l'arrière-boutique. Et donc, elle a utilisé un capital qu'elle avait pour ouvrir cette boutique. Mais elle avait des enfants, elle avait du mal à concilier les deux. C'est alors que son mari l'a discuté avec elle et ils se sont mis d'accord. Le mari l'a dit « Écoute, moi, je gère la boutique. » Les stocks, la logistique, la vente, c'est moi qui suis dans la boutique, presque 10 heures par jour, c'est moi qui suis dans la boutique. Et elle s'occupe de tout ce qui est administratif. Et donc, elle peut faire ça, ils ont leur appartement en haut, ils ont la boutique en bas, elle peut être à la maison, s'occuper des enfants, etc. Mais c'est elle, la chef de l'entreprise. Moi, quand j'y étais allé, je les avais rencontrés quand j'étais à l'époque formateur en insertion professionnelle, j'ai fait signer un stage pour un jeune. Et quand je suis arrivé vers le frère, il m'a dit « Écoute, je peux pas signer, c'est pas moi. » Il m'a dit « C'est ma femme. » Il m'a appelé et crié comme ça en haut, elle est descendue et c'est elle qui signe les papiers. Et ça m'a touché. Ça m'a touché. Il demande l'autorisation à sa femme, il a compris sa place, il respecte que c'est sa femme qui a investi, qui a ouvert la boutique et lui il se considère comme l'employé de sa femme dans le sens aussi ce qu'il a voulu, et c'est noble hein, de sa part, il a voulu l'aider, la soulager. Parce qu'elle n'arrivait pas à concilier les deux. Et en même temps, lui, ça lui a permis de regagner confiance en lui et de se rendre compte que oui, il est capable de s'insérer professionnellement. Et ça, c'est sa femme qui lui a donné l'opportunité. Alhamdulillah.
Quelle sagesse d'Allah de dire qu'il n'a pas pu... Enfin, les portes étaient fermées avant et que finalement, c'est parce que cette porte-là était grande ouverte, en fait. Ça aussi, je pense que c'est une belle leçon pour t'obtenir de cette belle histoire que l'on fait à Paris. J'aimerais à présent qu'on... Donc, on parle de la dimension sociale, sociétale de l'entraide dans le couple au sein de cette dimension-là. Et je vous avoue que quand j'ai préparé cette partie-là, j'ai eu une pensée émue pour Khaltina Jia, la maman de Meima, à qui on passe à grand salam si elle passe par là. Meima, l'autrice du roman qui est un peu biographique aussi, autobiographique, Grand Dernier Regard. Et si ta mort devait être le plus beau jour de ta vie. Et en fait, j'ai pensé à elle parce que c'est important de parler de la dimension professionnelle et de comment une femme peut s'épanouir professionnellement, mais certaines femmes n'aspirent pas à gagner de l'argent. C'est ce que tu disais, Bella, en fait, il y a vraiment des femmes, notamment des femmes croyantes, qui se disent, moi, je veux gagner mon akhira. Comment je peux faire tu l'as dit, Farid, on a commencé en disant que l'entraide, c'est vraiment de soulager un père ou une sœur finet. Alors, il y a la priorité au droit du sang, mais en fait, on peut aider tout le monde. On peut aider n'importe quel frère en humanité. C'est aussi qu'il a rappelé de Paris. Et la dimension sociale, sociétale, peut permettre ça, en fait, un épanouissement via l'entraide et un héritage, comme disait Bella, au sein de la société. Ma première question sur ce domaine-là, elle est pour toi, Bella. Comment cette aide et cette dimension-là, elle prend forme à travers les femmes que tu accompagnes et comment, encore une fois, on peut aider des femmes qui souhaitent faire de leur vie un ancrage aussi social et sociétal tout en les aidant à préserver leur foyer?
Tu sais que la majorité des femmes au foyer que j'ai rencontrées, toutes, au bout d'un moment, elles ont envie de travailler. Quand on dit travailler, c'est pas forcément lancer une entreprise. C'est aussi être active, en fait, dans l'associatif. Ça passe par des maraudes, ça passe par donner des cours de Coran, si tu avais connaissance dans ce sens-là. Ça passe par le fait, tu es en cours, tu peux aider en fait les autres élèves s'ils ont des difficultés d'apprentissage. Et en fait, remettre le focus en fait finalement sur soi. À partir du moment où tu as des talents, tu peux toujours aider, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'associatif, dans l'entrepreneuriat, etc. Et je pense en fait que c'est une dimension plus large, c'est plus la dimension d'utilité, tu vois. On croit à tort qu'on est inutile. On croit à tort qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas de compétences, alors que c'est faux. Moi, j'aime bien dire, c'est assez fort, mais pour moi, c'est très, très parlant. Je dis, il faut se rappeler que, au moment où on parle, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent toutes les secondes. Il y a des gens qui naissent toutes les secondes. Il y a des parents qui perdent leurs enfants jeunes. Il y a des enfants qui meurent, en fait. Il y a des femmes qui font des fausses couches le lendemain. Toi, tu es encore là aujourd'hui. C'est parce que tu as encore l'opportunité de faire quelque chose. Si tu es né, si tu es là sur cette terre, c'est parce que tu as ta pierre à apporter, en fait. Tu fais partie du maillot de la chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on s'en rend compte que le projet professionnel, finalement, c'est un peu la couverture. Ça vient pas tout de suite, ça vient souvent à la fin. Et en fait, le vrai problème, c'est plus une mauvaise image de soi. Quand j'ai une mauvaise image de soi, c'est pas que la personne se sent nulle, mais elle s'en rend pas compte, en fait, de ses pleines capacités. Tu vois? Mmh. Et forcément, ça a un impact aussi sur l'éducation des enfants. Parce que si t'as pas assez confiance en toi, en les capacités qu'Allah t'a données, parce que pour moi, tout ça, c'est lié au tawakul. Bah, forcément, même, au niveau de tes enfants, tu vas faire les choses, mais de manière plutôt mécanique. Même au niveau de la maison, tu seras triste parce que tu as l'impression que tu ne sers à rien. Or, tu sers à quelque chose. C'est juste que, moi, j'ai un exercice que je fais souvent, que j'aime beaucoup. C'est, on a plusieurs sphères dans notre vie. Je monte mes mains comme si on était en cours. On a plusieurs sphères dans notre vie et c'est important juste de prioriser. Si ces trois prochains mois, la priorité, c'est la famille, par exemple la santé et les amitiés, eh ben c'est OK. Juste accepter ça et te rendre compte que peut-être le projet professionnel, ça vient plus tard. Si c'est le projet professionnel qui est le focus à prendre en compte sur les trois mois, eh ben on assume. Ça aussi, hein, y a une question de se responsabiliser et d'assumer. Et on se focus sur ça, c'est OK. Et bien sûr, toujours en lien avec la spiritualité. Parce que pour savoir, moi, j'accompagne pas du tout une sœur ou un frère qui veut ouvrir un bar à chicha, par exemple. Les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, je trouve que non. Parce que je pars du principe que quand tu veux te réaliser professionnellement, il faut que ça puisse être utile aux autres. Il faut que ça puisse être utile à la Ouma. Et en plus, quand on voit les enjeux sociétaux actuels, bah, malheureusement, la langue commune, la langue pour qu'on puisse être respecté, c'est l'argent, en fait. Ça passe par l'économie. Et l'économie est liée au travail. Plus il y aura des entreprises musulmanes, des structures musulmanes, donc des associations, des écoles, des madrasas, peu importe le type de structure, bah, plus, en fait, on pourra aider nos frères et sœurs. On pourra les aider pour le stage. On pourra les aider pour l'alternance. On pourra les aider. Vous voyez, on pourra vraiment les aider. Parce qu'il y a des sœurs aujourd'hui moi, ça me fait un peu mal au cœur quand je vois certaines sœurs qui vont me dire je veux travailler peu importe du moment que je porte le hijab. Et en fait, je leur dis, mais ça, malheureusement, le projet ne va pas tenir 10 ans. Tu vois? Parce que en fait, quand on travaille pas autour de ce qui nous anime vraiment, autour de nos compétences qui nous sont propres, c'est un job alimentaire, donc du coup, ça dure pas, en fait, dans la durée. Oui, donc, il y a vraiment, en fait,
c'est... Financièrement, tu seras rassasié, entre guillemets, ou tu te seras senti à nouveau en sécurité. Ouais. Bon, bah, tu risques de t'essouffler, en fait.
C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment important. En tout cas, c'est comme ça. Je sais pas si ça répond à la question.
Oui, en fait, ça répond à la question, mais et en plus, ça a permis, je pense, de faire le focus sur des choses qui sont extrêmement importantes que tu as dites. Tu as dit une phrase qui est fondamentale, c'est le temps d'en bas. Et alors ça, je trouve que quand on a compris ça dans sa vie, tout change, en fait. De se dire, mon agenda, c'est je ne gère toujours pas mon emploi du temps. D'ailleurs, c'est drôle, parce que depuis qu'on est petit, il y a toujours quelqu'un qui gère notre temps. Et on va à l'école, on nous dit, l'école, c'est de telle heure à telle heure. Et puis après, on va au collège, mais ici, on a un emploi du temps. Puis après, on arrive au travail, souvent par la case du salariat. Et là, c'est pas nous qui gérons nos horaires non plus. Puis un jour, on est entrepreneur. Et là, tout part en éclat. On n'a plus d'horaire. Et on est, moi, j'ai mis, je pense, un mois et demi à me remettre de cette réalité-là. Parce que je l'ai pas du tout vu venir. Et je me suis dit, je ne sais pas gérer mon temps. Je ne sais pas gérer un emploi du temps. Et peut-être 8 ans après ma première vie dans l'entrepreneuriat, je réalise que de toute façon, ce n'est jamais moi qui ai géré mon temps. C'est le temps d'Allah. Donc, si Allah, il veut que je passe 2 heures à faire mon mafé ou mahrira ou que je ne sais quoi, je le ferai en fait. Parce que c'est ce temps-là, je le donne, encore une fois, je sers ma famille en servant mon créateur. Et c'est formidable. Et quand on se dit ça, quand on shift là-dessus, qu'on se dit le temps est le temps d'Allah, et moi je peux pas me battre contre le temps en fait, parce que je peux pas me battre contre Allah, mais alors là, on est... Notre vie, elle change, en fait, subhanallah, vraiment. Et la deuxième chose que tu as dit qui est extrêmement importante, encore une fois, c'est de se dire, et ça, je trouve que c'est formidable, c'est que c'est pas parce que ton collègue n'est pas professionnel que tu seras pas utile. Ne cherchons pas, on vit dans une société où on nous a fait croire que l'utilité, c'était de travailler. Combien de femmes qui ont eu des enfants, on leur a dit toujours, prends le travail. Non, parce que tu vas pas rester comme ça. Bien, tu fasses quelque chose. Non, parce que tu vas pas rester comme ça. Alors qu'en fait, bah, tu peux tout à fait être utile. Déjà, au ton foyer. Et si tu veux, si tu ressens, toi, le besoin d'assouvir ou d'être utile au sein de la société, d'être impactant pour la Oumma tout entière, comme tu l'as très bien soulevé, bah, en fait, il y a différentes options, en fait. Mais c'est à nous de redéfinir ce que c'est qu'utile. Et c'est à nous de redéfinir le format de notre utilité. Je te remercie vraiment beaucoup parce que j'ai trouvé que c'était passionnant et j'aime les nuances que tu as apportées sur ce sujet-là. Farine, je te donne la parole. Quel beau exemple tu peux nous présenter sur l'impact qu'on peut avoir d'un point de vue sociétal pour son après, oui, sœur, au sein de notre Ouma et que tu as pu trouver dans les modèles prophétiques. Tchao, bakar.
Alors, oui, un exemple d'entraide dans le couple concernant l'activité sociale. L'un des meilleurs exemples qu'on puisse citer, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a proposé des cours d'apprentissage de lecture et d'écriture à son épouse Hafsa, la fille de Omar, qui a accepté d'ailleurs. Et alors il a mandaté la compagnonne qui s'appelle Shifa bint Abdillah, qui était une des rares femmes qui savait lire et écrire à l'époque. Donc, il a mandaté Shifa bint Abdillah pour apprendre à lire et à écrire à son épouse Hafsa. Afin que, lorsqu'elle ait appris à lire et à écrire, elle puisse le transmettre aux femmes de Médine, aux femmes musulmanes, et ainsi avoir une utilité communautaire. Et même on rapporte dans les détails de ce récit-là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il accompagnait Hafsa jusqu'à la demeure de Shifa. Donc, il l'amenait, il la déposait, hein, il allait faire ce qu'il a à faire, il allait la récupérer et rentrer ensemble. Donc en fait, c'est vraiment comme si le prophète, ici, il avait payé des cours particuliers afin que son épouse Hafsa puisse se former. Et il était même investi, parce que au-delà de peut-être lui la mettre en relation, il était même présent physiquement, c'est-à-dire il l'accompagnait. C'est comme si aujourd'hui le conjoint prend sa voiture, il part avec sa femme, il la dépose, je sais pas, à la mosquée ou dans une association et autres, et puis il revient la chercher, et puis forcément ça discute. Alors qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se sent investi dans la mission que son épouse est en train de mener à bien. Et c'est ce qu'on retrouve dans cet exemple de Hafsa, radhiyallahu anha, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mandaté, donc, Shifa bin Abdillah pour lui apprendre à lire et à écrire. Et même derrière ça, on a parlé de compétences. Faut jamais oublier que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il oriente des personnes, c'est parce qu'il a décelé en elles des compétences. Donc, quand il oriente ici à Hafsa, c'est qu'il a décelé des compétences d'apprentissage chez elle. Et au-delà de ça, il a aussi l'intelligence d'arriver à mettre en place des connexions. Et ça, c'est important dans l'entrepreneuriat, c'est important quand on veut être actif socialement, d'avoir un réseau. On en parle tout le temps, avoir un réseau. Eh bien, le prophète, ici, il met une connexion. Il met la connexion entre Shifa et Hafsa. Et pourquoi il les met en connexion? Parce qu'il y a une demande, il y a une compétence qu'il faut développer. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'il faut savoir que Shifa et Hafsa, elles sont toutes les deux à la base originaires de la Mecque, du clan de Quraysh, de la tribu de Quraysh, et même plus particulièrement du même clan, les Bani Adi. C'est-à-dire qu'elles ont un lien familial qui est proche. Donc le prophète, sans même, à travers cette connexion, il a mis, on va dire, une affinité qui les rassemble, et en plus un développement de compétences, et ce qui a permis d'ailleurs à Hafsa d'être utile à la communauté musulmane, parce qu'elle va devenir une des principales enseignantes concernant la lecture et l'écriture arabe pour avoir accès au Coran.
C'est magnifique. C'est encore une fois, c'est beau de voir que, en fait, l'entraide dans le couple, c'est aussi permettre à son époux ou à son épouse, chez qui on a décelé un talent, un don qu'Allah lui a donné, de l'autoriser à le partager à d'autres cadeaux, en fait. C'est ne pas garder ce magnifique cadeau au sein de son foyer. Je trouve ça absolument merveilleux. Mais je reprécise et je reviens sur ce que tu disais, Bella, tout à l'heure, c'est que la vie est faite de saisons, en fait. Il y a parfois, c'est la saison des enfants, par la saison du foyer. Mais peut-être c'est pas vouloir rester content comme ça. Si t'as une fenêtre de tir ou la saison, c'est plutôt la onna, au sens plus large du terme. Eh bien, en fait, effectivement, essayons autant que nous pouvons d'encourager nos conjoints, nos conjointes à aller justement partager ces talents au cœur, au sein même de la société du Manchama et de Fafa Club Noban, puisque le calendrier d'hier peut devenir le musulman de demain. J'aimerais qu'on clôture un peu cette discussion en allant sur la dimension spirituelle. En anglais, on dirait last but not least. C'est vraiment, c'est le dernier sujet qu'on aborde, mais c'est vraiment pas le moins important, clairement pas. Et par ailleurs, moi, je trouve que c'est un sujet, l'entraide spirituelle, qui mérite qu'on s'y attarde un peu, parce que, particulièrement quand on est une femme et qu'on n'est pas encore mariée et qu'on avance spirituellement, on a des attentes sur ce sujet. On a toujours l'impression que il faut que le frère il soit devant, parce que s'il n'est pas devant, ça va être compliqué. Lui aussi, il va pas se sentir bien. Farid, je vois que tu souris, donc ça veut dire que je pense que tu as déjà entendu ce genre de propos. Je fustige pas les sœurs qui pensent ça. Moi, j'ai été une de ces sœurs qui a pensé ça. Je le pense toujours dans une certaine mesure, on pourra en discuter, mais il est évident que oui, sur certains actes d'adoration, il y a des niveaux sur lesquels il faut pas discuter, à mon avis, c'est au point de vue. Mais en tout cas, là, on est là pour parler d'entraide. Comment on fait pour s'entraider spirituellement parlant. Et là, pour le coup, j'aimerais que Farid, tu passes directement par la case des exemples et que on puisse ensemble voir les leçons qu'il y a en tirer. On t'écoute.
D'accord. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a une conception au sein des foyers musulmans qui est la suivante. L'homme a la suprématie concernant le domaine religieux et spirituel. C'est toujours lui qui a la réponse à tout, c'est toujours lui qui doit savoir, c'est toujours lui qui va avoir le dernier mot concernant les sujets religieux. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. L'homme comme la femme, ils ont chacun à apporter. Je vais donner un exemple dans le Coran où c'est une femme qui a orienté spirituellement un homme, et pas des moindres, un prophète. Le prophète Zakaria, c'est le prophète d'Allah. Il reçoit la révélation, subhanallah. Il est en lien direct avec Allah. Et Zakaria, avec son épouse, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et Zakaria, il s'occupe de Mariam. C'est lui qui est le tuteur de Mariam dans le temple. Et il a une grande affection pour Mariam. Déjà, elle est de sa famille, c'est sa nièce. Certains disent, et il a une grande affection pour elle. Et il s'occupe d'elle, et il la voit grandir. Et elle grandit dans la piété, Mariam. Et lui, alors qu'il est un homme d'un certain âge, les cheveux blancs, etc., il rentre dans le temple où il va visiter Mariam à chaque fois. Et quand il rentre auprès d'elle, alors il faut bien comprendre qu'elle est dans une pièce dans le temple où personne n'a le droit de rentrer. Et lui, quand il rentre auprès d'elle, c'est le seul qui a le droit de rentrer, il trouve de la nourriture. Il va la questionner. On trouve cela mention dans le Coran, dans la sourate Maryam. Il va lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, Maryam? Alors, bien sûr, il a la bonne opinion. Il sait que personne n'est rentré. Mais ça l'intrigue. Et là, Maryam, elle va donner une leçon au prophète, subhanallah. Elle va lui dire, min indillah. Elle va lui dire, ceci provient directement d'Allah. C'est Allah qui m'a accordé cette nourriture. Un prodige qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Maryam. Quand Zakaria, il a vu ça de ses propres yeux, il a compris, il le savait, mais là, il a vraiment compris qu'en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toute chose. Et c'est Maryam qui lui a fait ce rappel-là. C'est Maryam qui a déclenché cette petite étincelle dans sa conscience. Et c'est pourquoi tout de suite après, Zakaria, il va mettre en pratique la leçon que Maryam lui a donnée. Il va s'isoler en secret, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va l'exaucer, il va lui donner comme enfant Yahya. Donc là, c'est une femme qui a donné une orientation spirituelle à un prophète. Les autres exemples que j'ai, c'est dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, incontournable, Khadija radiana. Et vous allez voir que quand on parle d'entraide spirituelle, c'est toujours lié à une entraide psychologique et morale, tout le temps. Tout le temps, puisqu'ils sont intimement liés. Le meilleur exemple qu'on a, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la première fois, il reçoit la révélation lorsqu'il est dans la grotte de Hira. Ben, il sait pas ce qui se passe. Il comprend rien à ce qui se passe. Il a aucune connaissance, aucune notion du monde invisible, de la croyance, etc. Et donc, il est apeuré. Et il pense que Allah l'a peut-être touché par quelque chose de négatif. C'est ce qu'il pense. Et oui, le prophète Mohammed SAW qui pense ça. Et tellement il est effrayé, il a ce réflexe de partir chercher de l'aide, du réconfort auprès de quelqu'un. Alors, il n'est pas allé voir son meilleur ami Abou Bakr. Il n'est pas allé voir son oncle Abou Talib. Il est allé voir qui? Son épouse, Khadija radhiyallahu anha. Ça nous rappelle que dans un couple, la première personne à qui on doit se confier et vers qui on doit revenir pour chercher de l'aide, c'est notre conjoint ou notre conjointe, et non pas les autres membres de la famille. D'abord, en numéro un, c'est notre conjoint conjointe. Et c'est ce qui fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il part retrouver Khadija, qui à ce moment-là, Khadija la magnifique, Khadija la grande, va l'apaiser et le soulager par un témoignage qui reste le plus beau, le meilleur de tous les témoignages concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Elle va lui dire, jamais Allah il s'en prendra à toi. Tu es bon, tu es généreux, tu respectes le dépôt, tu aides les veuves, les orphelins, les pauvres, etc. Et après ces paroles-là, forcément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être soulagé. Mais pas que, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'elle va faire, Khadija radhiyallahu anha encore? Elle va même lui trouver des réponses à ses questions. Elle va lui trouver des réponses à ses questions spirituelles. Elle va aller voir son cousin Waraqa, qui est un chrétien versé dans les anciennes écritures. Elle va amener son époux Mohammed sur Sama Waraqa. Ils vont s'entretenir. Enfin, bon, il n'y avait pas le podcast à l'époque, mais c'est à peu près ça. Ils étaient trois, comme nous ce soir maintenant. Ils vont échanger et il va avoir les réponses sur ce qui se passe. Waraqa va lui expliquer, voilà, t'es un prophète, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, le prophète va être soulagé et il va comprendre ce qui lui arrive. Mais le biais par quoi est venu tout ce bien, c'est le fait qu'il s'est confié à son épouse Khadija radhiyallahu anha. Donc c'est un soutien dans la mission avant même qu'elle le soutienne par la suite, on le sait très bien, avec son argent, etc. Ça, c'est le premier exemple que je voulais prendre dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième exemple, il est un peu moins connu, mais tout aussi important. C'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Salama. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parti faire la Umrah avec des compagnons et il avait pris Salama, son épouse, pour faire la Umrah. Finalement, quand ils arrivent à la Mecque, Quraysh les empêche de faire la Umrah. Donc ils doivent s'isoler à l'extérieur de la Mecque. Et puis il va y avoir des négociations politiques entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh, ce qu'on appelle le pacte de Hudaybiyah. Et dans ce pacte, les musulmans, en apparence, ils sont lésés, ils sont perdants. Mais en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il voit loin. C'est-à-dire, il a fait des concessions, il a acheté la paix. Parce que cette paix qu'il a eue par le pacte de Hudaybiyah, ça va permettre aux musulmans de faire la da'wa dans la péninsule arabique pendant 10 ans. Et c'est grâce à ça que la plupart des tribus arabes ont embrassé l'islam. Donc vous voyez, des fois, faire des concessions, faut pas croire que c'est de la faiblesse. Au contraire, c'est une sagesse. Et c'est ce que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, quand ils sont dans les faubourgs de la Mecque, ils sont dans leur campement, les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir près de ses compagnons. Et il va leur dire, voilà, on n'a pas fait la Umrah, on n'a pas pu la faire. Mais comme on avait l'intention de la faire, on va aller jusqu'au bout, on va se raser les cheveux, comme c'est la tradition quand on fait la Umrah. Et là, pour la première fois de sa mission prophétique,
les compagnons refusaient d'obéir, la première fois, parce qu'ils se sentaient lésés par le pacte. Et le prophète Sosem, il va être attristé comme jamais il l'a été. Il va revenir dans la tente où se trouve son épouse Oum Salama, et elle tout de suite, elle va comprendre, elle le voit. Hein, il a les chines courbées, il a les yeux baissés, elle comprend qu'il est triste et que son mari va pas bien. Alors elle lui demande qu'est-ce qu'il y a. Et lui va se confier à elle. Il lui explique, voilà, mes compagnons, ils ont pas voulu m'écouter sur ça. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le soutenir spirituellement, elle va le soutenir moralement. Elle va être une aide dans la religion. Comment? Elle va lui donner un conseil. Eh oui, il faut prendre des conseils entre conjoints. Elle va lui dire, écoute, tu sors au milieu de tes compagnons, toi, tu te rases la tête devant eux, ils vont tous te suivre. Et là, le prophète s'est dit, mais quelle excellente idée. Il va sortir, il va se raser la tête et ils vont tous le suivre. Et donc, Oum Salama, par son conseil, elle a mis fin à cette difficulté qu'a rencontré le prophète s'en sème dans sa mission de transmettre une législation, des orientations spirituelles. C'est une femme, son épouse, Oum Salama, qui par ses conseils, sa bienveillance et surtout leur discussion, leur communication et le fait de se confier l'un à l'autre, eh bien, ça va apporter, ça va faire naître une solution à cette difficulté qu'a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a été, Oum Salama, un soutien dans la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un conseil sage.
Shamba, c'est vraiment un... Votre merci, Farid, pour ces beaux exemples, parce que il y a plusieurs enseignements à en tirer, mais le premier qui me vient très vite à l'esprit, c'est que, en fait, l'entraide spirituelle, elle n'est pas uniquement sur les actes d'adoration. C'est
tout
pas
à fait, très bien.
S'habiller pour faire tahajjud, et c'est formidable. Alors, c'est très bien si vous pouvez vous réveiller tous les deux pour faire vos actes d'adoration. Vraiment, c'est magnifique. Si vous pouvez jeûner entre éclipses, c'est formidable. Vraiment, moi, je ne diminuerai jamais ça. Mais en revanche, ce qu'il faut mettre en valeur, c'est que, et ça, c'est Bella qui l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que chacun, en tant que nous sommes, nous avons des points forts. On rentrera, Yannida Ta'ala, dans le paradis par différentes portes. Certains, ce sera par des actes d'adoration très forts, et d'autres, ce sera parce qu'ils auront un adab impeccable. Mais c'est parce qu'effectivement, ils auront veillé à la spiritualité de leur conjoint à travers des conseils, à travers une écoute, à travers un avis. Et c'est vraiment ce que tu nous as montré. Je trouve ça d'une beauté extraordinaire. Et peut-être que ça pourra permettre à chacun d'entre nous de voir mes époux et nos épouses sous un angle différent, de dire, ah ok, c'est peut-être pas avec lui, c'est pas mon compagnon de jeûne, mais par contre, c'est vrai, j'avais pas fait attention, mais quand il s'agit de l'aider à avoir un meilleur comportement, encore une fois, à me conseiller sur des choses qui font un soutien à ma religion, cette personne est là. Je trouve ça vraiment très beau. Je te remercie, Farid, pour ces magnifiques enseignements. J'ai une dernière question pour vous. Finalement, si on devait résumer l'entraide au sein du couple musulman en un mot ou une phrase, laquelle ce serait pour vous?
Une phrase, c'est un beau challenge, mais je dirais que c'est s'aider mutuellement et se voir avant tout, en dehors du couple, et se voir vraiment comme un frère et un sœur en Allah. Voilà, ça se pourrait résumer.
Si je pourrais
résumer en une phrase, inchallah.
On a le petit de Bella qui nous a fait la joie et l'honneur de nous rejoindre et qui est très très calme. Farid, est-ce que toi, tu souhaites résumer tout ça en une seule phrase?
Alors oui, alors c'est difficile de résumer en une phrase, mais je me baserai sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on peut comprendre que l'entraide dans le couple doit apporter en fait sakina, la quiétude. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que les époux entre eux, ils doivent trouver la quiétude, et notamment par le biais de mawadda wa rahma, l'affection et la miséricorde. Et s'entraider, que ce soit professionnellement, socialement ou spirituellement, c'est l'un des moyens, l'un des facteurs les plus efficaces pour faire progresser, pour faire évoluer l'affection qu'on a entre nous au sein du foyer.
Chama, c'est grâce de qualité, je ne rajouterai rien, je me laisserai chacun et chacune méditer sur... Sur vos deux, pardon, belle conclusion. Je vous remercie vraiment beaucoup, Parakalotiku, pour votre temps, pour vos expériences. J'ai, extra personnel, j'ai vraiment aimé le fait que on ait pu, durant cette conversation, aller sur différentes dimensions de l'entraide en allant à chaque fois sur en s'approchant fermement vraiment à ce que Aspatala veut de nous, tout en essayant de comprendre le monde dans lequel on vit et faire en sorte de naviguer entre les deux. Je vous remercie vraiment beaucoup, Paride et Bella. Bella, pour les personnes qui souhaitent bénéficier de tes talents, pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, comment on les redirige, vers quel réseau?
Alors, je suis disponible via mon compte Instagram. Donc, c'est -8 Ramatabella. Donc, RAMATABE2LA. Donc, je propose, comme vous l'avez dit précédemment, des accompagnements pour accompagner vers le projet professionnel. Mais je fais aussi, j'ai oublié de le dire, des ateliers en fait en ligne et en présentiel pour travailler en fait justement la communication. Après, la communication pour apprendre à nous connaître et la communication dans le couple et dans le milieu professionnel.
Il a raison, c'est l'heure de la prière. Vraiment, alors là, vraiment, si on peut s'arrêter là, tu vas voir.
Oui, c'est l'heure de la salade. Merci pour le rappel.
Exactement. Comme quoi, voilà. On est sur une entraide magnifique quand même. On est sur un petit bonhomme qui nous rappelle nos obligations.
Qui nous dit.
On est quand même. Il est parfaitement dans le thème. Mais écoutez, je vous remercie. Marine, quand même, également, pour les personnes qui souhaitent te joindre, qui souhaiteraient rejoindre l'Institut musulman de Moselle, comment est-ce qu'on peut les rediriger?
Alors, ils peuvent me trouver sur Facebook, la page Institut musulman de Moselle, ou alors sur Instagram, mon compte privé, Farid Jebia. Mais je pense que tu mettras les informations en info via les infos du podcast, Madina, non?
Absolument, hein? Ouais,
voilà.
Absolument,
d'accord.
Comme d'habitude.
Très bien.
Je vous remercie encore beaucoup.
Super.
Je vous prenais bien soin de vous. Salam alaikum, salam alaikum.
Salam alaikum.
Salam alaikum.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre trois possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcasts. Cela aide énormément le podcast à être référencé, et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 euros par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée, et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur deux, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Jardin. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.
If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid. Good trips only.
I used to wonder if I could turn my passion for broadcasting into a career. Then I went to a Birmingham City University open day. Now I study media production at BCU. Imagine honing your skills in cutting-edge facilities from TV studios to radio suites and even having the opportunity to gain industry experience. Well, that's my reality at BCU. Join us at our next open day on Saturday the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now. I am Lauren. I am BCU.